23h53 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Aurélia. Bonsoir Aurélia.
Bonsoir.
Bonsoir, d'où nous appelez-vous Aurélia et quel âge avez-vous ?
J'appelle des Ardennes et j'ai 31 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Aurélia ?
Moi je voulais un petit peu exposer un petit peu ce que j'avais vécu pendant le début du premier confinement.
Mmh.
Parce que on a tous vécu des mois difficiles avec le Covid, mais moi j'ai perdu mon petit garçon au début du premier confinement d'une maladie et donc je voulais un petit peu exposer aussi que pendant le Covid, il n'y a pas eu que le Covid, il y a eu aussi beaucoup de drames qui s'est passé pour certaines familles et que voilà, nous on a perdu un enfant et on a dû vivre avec les nouvelles réglementations pour un enterrement, pour tout ce qu'il y a eu pour ce tout premier confinement qui était très difficile pour tout le monde. Et voilà. En gros.
Oui. Votre petit est parti de quelle maladie, en fait ?
Mon petit garçon avait 6 ans et il avait une maladie cardiaque.
Oui.
Ça faisait 6 mois qu'il était hospitalisé en Belgique parce qu'il avait une maladie rare. Donc, en fait, en France, c'était un peu bouché. Et du coup, on a trouvé un médecin belge qui a bien voulu s'occuper de notre enfant. Il allait plutôt mieux. Et puis, au fur et à mesure des mois, en fait, il a commencé à moins bien aller. Donc, il a été hospitalisé. Il a été hospitalisé fin septembre et l'année dernière. Et on l'a récupéré le 22 mars. Et il est décédé le 27 mars. Donc, en gros, alors c'est un enfant qui a une grande histoire parce qu'en fin de compte, qui était énormément suivi sur les réseaux sociaux parce qu'on avait créé une page pour lui. On avait besoin de raconter son histoire. C'était un enfant très joyeux, qui était particulier par rapport à son histoire, par rapport aussi... à son caractère. C'est un petit garçon vraiment très joyeux tout le temps. Et par le biais de cette page, j'ai pu raconter beaucoup de choses. Son histoire, puis aussi toutes les difficultés que peut avoir un enfant malade ou des parents d'enfants malades. Et moi, j'ai passé pratiquement 6 mois auprès de lui.
Oui.
Et puis... jamais une seule seconde, je pensais qu'il allait nous quitter pendant les mois où j'étais là-bas. Je savais que son état s'aggravait un petit peu, mais je pense que je m'étais mis un petit voile devant les yeux. Et puis que j'en ai pris vraiment conscience en février 2020, donc il y a un an, quoi, en fait, qu'il allait partir, quoi. Que je pourrais rien faire de plus pour lui, que mon rôle, en fait, allait être de l'accompagner.
Oui.
Et c'est pas quelque chose de facile quand on est aussi jeune, je pense. Et puis qu'on est maman et on n'est pas... on sait pas trop comment prendre les choses. C'est mon enfant qui m'a un peu...
aiguillée.
Aiguillé, ouais. Sur la façon que ça allait se passer. C'est lui qui a décidé les choses. C'est lui qui a décidé du jour au lendemain d'arrêter de se battre alors qu'il se battait depuis 6 ans. Donc c'est lui qui a décidé qu'il voulait rentrer à la maison pour mourir. Donc tout ça, c'est des choses difficiles en fait. On rentrait, le Covid venait de commencer en fait. Et moi, j'étais omnibulée par ce qui se passait autour de mon enfant où on était en train de m'expliquer par A plus B que j'allais rentrer à la maison et qu'il allait partir chez moi. Et que et que j'allais peut-être être toute seule, en fin de compte, pour accompagner mon enfant, parce qu'il y avait un virus et que machin. Enfin, ce virus-là, en fin de compte, il a pris des proportions énormes, si bien qu'on s'est retrouvé, mais tout seul, avec un enfant qui allait mourir, en fait. Donc, on est rentré à la maison le 22 mars. Et puis, bon, les médecins m'appelaient de temps en temps, savoir comment il allait. Mais en fait, le matin où j'ai appelé l'équipe des soins palliatifs, en leur disant qu'il allait pas très bien, ils m'ont dit on va essayer de venir. Et puis, en fin de compte, la frontière entre la France et la Belgique était fermée.
Oui, oui. Il y a eu beaucoup de complications, voilà, entre la France et la Belgique. On va continuer à parler, à dérouler votre histoire, Aurélia. L'info arrive sur Europe 1, donc je vais vous demander de patienter quelques minutes et puis on se reparle juste après le journal, d'accord ?
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à appeler le 3921, chers amis, ou nous écrire au 739-21. Pour le moment, nous sommes avec Aurélia. Aurélia, donc vous en étiez à cette problématique de frontière, puisque ça ne passait plus entre la France et la Belgique. Donc, que s'est-il passé là, à ce moment-là? Vous étiez coincé?
Oui. Totalement. Ils nous ont appelés, en fait. L'équipe nous a appelés en nous expliquant qu'ils ne pourraient pas venir et qu'il fallait que je m'occupe de mon petit garçon un petit peu toute seule, quoi. Donc, moi, de mon côté, j'ai appelé le médecin traitant de la famille, qui savait, en fait, hein, bien sûr, tout le monde était au courant de ce qui se passait quand même autour de nous. Donc, le médecin traitant des soins palliatifs, parce qu'il avait signé aussi les papiers avec nous et avec l'équipe belge. Tout ça s'était fait, bien sûr, par intermédiaire, par téléphone, parce qu'il n'y avait plus de possibilité de se rencontrer avec le Covid, en fait. Donc, tout s'est fait par téléphone, même pour mon mari, en fait, qui a dû signer les soins palliatifs à distance avant que je revienne. Tout a été très froid, en fin de compte, hein. Tout s'est fait à distance pour tout le monde. Et le médecin traitant m'a dit je vais venir le plus vite possible pour être avec vous, pour que je ne sois pas seule, en fait.
Oui.
Sauf que mon petit garçon est décédé dans mes bras avant que le médecin n'arrive, en fait. Il n'a pas eu le temps. Ça faisait peut-être 5 minutes qu'il était parti quand le médecin est arrivé, en fait. Donc, le médecin n'a pu que constater le décès de notre enfant et nous faire les papiers et puis voilà. Signer les papiers des soins qui étaient terminés, comme on fait quand il y a un décès, et que, bien sûr, c'était mon premier décès que je voyais de mes yeux, et mon propre enfant, donc c'était vraiment quelque chose de particulier, et j'étais très... je ne me rendais pas compte, en fait, de ce qui se passait. Je l'ai accompagné sans trop me rendre compte réellement qu'il était parti. Et puis, tout va très vite, en fait. C'est qu'il est décédé, et puis une heure après, les pompes funèbres sont arrivées. Et puis, j'ai d'autres enfants. Donc, il fallait que pendant que mon fils était en train de décéder, que mon mari s'occupe des autres enfants qui étaient présents et qu'il fallait protéger un petit peu, malgré tout, de la vision de leur frère. Donc, on a essayé le plus possible de protéger la fratrie. Et de leur montrer leur frère une fois que tout était terminé, s'ils voulaient. Et puis, au vu du contexte en fait, sanitaire, tout a été très, très difficile parce que même notre médecin traitant nous a dit « mais c'est une double peine, en fait, ce qu'on est en train de vivre parce que même les pompes funèbres n'ont pas voulu habiller notre enfant. Enfin, tout a été difficile. Il a fallu que j'habille mon enfant qui venait de mourir avec ma maman. » Qui, en fin de compte, même si c'était interdit, est venu chez nous avec mon papa nous aider parce qu'on était seuls avec d'autres enfants, avec un enfant qui venait de mourir et qu'on ne savait plus trop quoi faire, en fait. Enfin, moi, j'étais un peu perdue. J'étais un peu sonnée, un petit peu... Voilà, je venais de perdre mon enfant et tout allait très vite. Et tout devait aller vite, en fait, avec le Covid, même si notre enfant était décédé d'autre chose. Tout devait aller vite, en fait. Donc, du coup, c'était très difficile sur le côté des pompes funèbres. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué sur le décès de mon enfant. C'était le fait qu'ils ne veulent pas le toucher. Qui est comme si... Enfin, voilà, il décédait d'autre chose, mais il ne voulait pas s'en approcher. Donc, c'est quelque chose de particulier, quand même, hein. Cette ambiance de Covid, là, qui nous volait un petit peu
ce moment.
L'envol de notre enfant. Et c'est vrai que bon, ben voilà, les pompes funèbres ont très vite mis notre enfant dans ce petit sac blanc et l'ont très vite emmené à la chambre funéraire. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a quand même pu avoir 2 jours de chambre funéraire avec notre enfant, ce qui n'était pas le cas pour d'autres personnes qui étaient décédées. Et on a eu quand même cette chance-là, entre guillemets, de pouvoir aller voir notre enfant comme on le voulait, comme on le voulait, nous du moins, parce qu'en fait, c'était très limité au niveau des visites, même à la chambre funéraire. Et puis l'enterrement, quoi. Faut être honnête. Hein. Enfin, moi, j'en parle ouvertement parce que ça va bientôt faire 1 an qu'il est parti. Et puis que j'ai un autre regard, je pense aussi maintenant, sur tout ça. Et je me dis, l'enterrement, enfin... C'est la double peine, quoi. Mes enfants n'avaient pas le droit de venir parce qu'ils n'avaient pas plus de 16 ans.
Oui.
Et mes parents n'avaient pas le droit de venir, les grands-parents, parce qu'ils avaient au-dessus de 70 ans. Puis, ben, vous trouvez un enterrement à 5 personnes, quoi. Parce que, voilà, parce qu'il y a le Covid et parce que... Donc, vous vous retrouvez en tête-à-tête avec le prêtre, les pompes funèbres, votre mari et puis 2-3 personnes. Donc, pour dire au revoir à un petit garçon qui méritait beaucoup plus qu'un enterrement à la va-vite comme il a eu, alors que lui, le Covid, il n'en avait rien à faire.
Oui, oui.
Clairement, il partait au mauvais moment. Voilà, le prêtre m'a toujours dit il a choisi son moment. Peut-être qu'il voulait être en tête-à-tête avec vous et qu'il ne voulait pas trop de monde autour de lui, pour partir. Mais c'est vrai que ça a été très frustrant, malgré tout. Qu'on ne soit pas entouré du tout, en fait. Même pas de nos enfants, en fait. On se retrouve... c'est difficile, en fait, de dire au revoir à un de ses enfants sans ses autres enfants. Et voilà. Et mes autres enfants m'en parlent, d'ailleurs, des fois, en nous disant on n'a même pas pu...
Dire au revoir.
Voilà. Voilà, ils m'en parlent régulièrement. En plus, eux, c'est vrai que c'était... les pauvres, ils ont vécu quand même une séparation avec moi pendant 6 mois où je suis restée avec leur frère à l'hôpital. Et je reviens. Et je reviens pour leur dire leur frère va mourir. Donc, ils ne m'avaient pas vue depuis des semaines et je suis revenue que pour ça. Et c'est vrai qu'en fin de compte, nos enfants étaient contents de me voir rentrer. Mais ils comprenaient aussi que je ne revenais pas pour la meilleure des choses, quoi.
Oui.
Donc, c'est vrai que c'est pas simple quand vous avez un enfant malade comme ça et que vous avez d'autres enfants et puis que vous en enchaînez avec un confinement et que vous enchaînez avec un virus qui va durer des mois et des mois. Et c'est vrai que ça a été vraiment une double peine, en fait, pour nous, en fait. Vraiment, parce qu'après l'enterrement, on était en confinement. Donc, personne. qui pouvait venir nous voir. On s'est retrouvés tout seuls très très vite. Et puis en fin de compte, votre deuil, il est en suspens. Parce que c'est pas la vraie vie. Vous êtes en confinement, vous voyez personne. Et le deuil, il est en suspens. Jusqu'au jour où on vous déconfine et que vous vous reprenez en pleine tête tout ce que vous auriez dû avoir les jours d'après le décès de votre enfant. Ce qui veut dire, vous revoyez les gens. Vos enfants retournent à l'école et on vous regarde en vous disant mes condoléances, alors que votre enfant, ça fait déjà 2 mois qu'il est parti. Et tout ça, en fait, on a vécu tout en décalé et c'était vraiment difficile pour nos enfants, en fait. Pour moi aussi, mais j'étais obligée de faire face pour mes enfants, en fait. Et je trouvais vraiment que c'était dur, en fait, de devoir repasser par la case. Votre fils est décédé et je sais pas comment exprimer, on avait vraiment l'impression que notre enfant était mort la veille en fait, quand il y a eu le déconfinement, parce que tout le monde nous disait nos condoléances alors que notre enfant était déjà parti depuis plusieurs semaines en fait. Et c'est assez bizarre comme sensation.
Je me doute. Et quelle explication vous a donné à tout ça? On vous a juste donné le Covid et point, c'est tout.
Ouais. On m'a dit c'est à cause du Covid. Et j'en ai voulu. Hein. Parce que dans des phases de deuil comme ça, il faut bien en vouloir à quelqu'un en fait. Et moi, j'en voulais au Covid parce que je me suis dit c'est pas possible ce truc-là qui arrive et qui vole. La fin de mon enfant, en fait, parce que moi, en fait, quand mon fils a commencé à aller très mal, c'était au début du Covid, en fait, et toute ma vie, je saurais, en fait, que c'était pendant le Covid, quoi. C'était au début du Covid et toute ma vie, ça me rappellera, en fait, voilà, mon fils, il est parti pendant cette période, et tout le monde, d'ailleurs, s'en rappellera comme c'est le petit garçon qui est parti pendant le Covid.
Oui, oui.
Et voilà, c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup, beaucoup de soutien parce que c'est un petit garçon qui avait une communauté qui le suivait de milliers de personnes. On a eu vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui nous ont aidés parce que quand il est décédé, les fleuristes étaient fermés, tout était fermé en fait. Donc quand vous faites un enterrement, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait rien, tout était fermé. Les fleuristes, ça faisait même pas une semaine qu'ils étaient fermés. Tous les fleuristes de la région nous ont fait parvenir leurs fleurs qui n'étaient pas mortes en fait. Ils ont essayé de faire des compositions pour notre enfant. Ils nous ont tout fait livrer au cimetière. Enfin, on a eu quand même un élan de solidarité dans notre région qui nous a quand même fait du bien parce que. On était seuls, mais en même temps, les gens, ils pensaient quand même à nous et ils pensaient à lui. Et on se dit, il s'est battu pendant plusieurs mois. Et les gens ont été vraiment adorables de nous aider comme ils l'ont fait à distance, en fait. Voilà, en respectant toutes les gestes qu'il fallait. Et voilà, mais malgré tout, c'est vrai que la douleur, elle était dure comme tout parent qui perd un enfant, mais elle était un peu intensifiée par le manque de nos familles, le manque des gens qu'on aime autour de nous, en fait.
Oui.
Et quand vous perdez quelqu'un, que ce soit un enfant ou n'importe qui, vous avez besoin de vos proches, vous avez besoin d'une main tendue, d'un câlin, presque, j'allais dire. Et le Covid, en fait, nous a privés de tous ces trucs-là, en fait. De tous ces trucs qui permettent de se sentir un peu mieux dans la détresse où qu'on était. Après, moi, je ne suis pas une personne qui se laisse facilement abattre. J'ai toujours, essayé de faire combattre mon fils, c'était notre super-héros, je lui disais tout le temps, t'es notre super-héros, tu vas t'en sortir, et j'étais un peu sa force, on était tous les deux ensemble, on se donnait la force d'avancer dans tout ça, et je me dis, maintenant, quand il est parti, je dis j'ai ma force à moi toute seule pour les autres enfants. Et ça, c'est pas simple parce que par moment, je me dis le Covid, il est toujours là. Et j'ai toujours cette impression que ça fait que quelques semaines qu'il est parti parce qu'il y a toujours ce virus en fait. Et alors, je pense, comme beaucoup de Français, on en a marre de ce virus, mais on le subit comme tout le monde. Mais j'ai toujours cette impression que le temps que ça ne sera pas fini, j'arriverai pas à faire un deuil, mon deuil en fait. Parce que c'est arrivé en même temps et voilà, enfin, c'est. Voilà. Enfin,
ouais,
après,
c'est, terrible, oui.
C'est pas évident. Puis je veux pas foutre le moral à zéro à tout le monde. Mais c'est pas simple de faire un deuil comme ça quand il y a une pandémie comme ça, quand il arrive quelque chose d'aussi. Évidemment, ce que je dis à tout le monde, c'est qu'il a fallu que ça arrive l'année où le mois où notre enfant s'en va. Et je me dis, le truc qui n'est jamais arrivé, une pandémie, en fait. Et ça arrive. Et voilà, c'est arrivé. Et puis, on peut rien y faire. Notre enfant est parti, ça le fera parvenir de... Voilà, ça va faire un an. Je me dis, le mois prochain, ça va faire un an qu'il est parti. On a l'impression que c'est hier parce qu'on n'a pas... la vie n'est pas redevenue comme avant, en fait. Et puis, elle n'est pas prête de redevenir comme avant. Donc, c'est... Même pour mes enfants, il faut imaginer quand même que... Pour tous les enfants, ce virus, c'est compliqué parce que c'est des enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. Pour tous les enfants en France, hein, c'est compliqué. Et puis, quand vous perdez un petit frère, c'est encore plus compliqué.
Bien sûr,
parce
bien
que
sûr.
Vous ne voyez plus vos copains, vous ne faites plus de sport, vous ne faites plus rien. Donc, j'ai mon grand qui a presque 13 ans qui... C'est compliqué. Qui, ça lui rappelle toujours, il manque mon petit frère. Hein. Et on ne peut pas dire, on va aller faire un petit truc pour vous faire penser à autre chose. Il n'y a plus rien. On ne peut même pas dire, hormis aller se promener un petit peu en forêt, je veux dire, on ne peut rien leur faire faire aux enfants. Pour leur dire, allez, on va penser à autre chose.
Mais bien sûr, bien sûr.
Voilà, c'est comme tout le monde. Des fois, on a besoin de penser à autre chose. Après, comme tous les Français en ce moment, mais c'est vrai que, voilà, quand il y a quelque chose d'aussi terrible qui arrive, on a envie de leur faire penser à autre chose, on a envie de les accompagner, de dire « Ah ben, on va partir en vacances, on va faire un truc. » Et on ne peut pas, parce que, voilà, on est limité. Après, je leur ai dit, ça va partir un jour. Et on se rattrapera, on fera plein de choses après. Et j'essaye de rester positive, même si des fois, je suis un petit peu... J'ai un peu le moral dans les chaussettes,
oui,
parce que
normal.
Je me dis, oh là là, c'est difficile. Parfois, on a le moral dans les chaussettes, c'est obligé. Et pas que, je veux dire, on perd un enfant, on a le moral forcément dans les chaussettes. Il y a des jours où ça se passe très bien, puis il y a des jours où tout vous fait penser à lui. Et puis il y a des jours où on arrive à se projeter un petit peu, à dire, bon, allez, il aimait bien qu'on fasse ça, on va faire ça. Et voilà, c'est un apprentissage quand on perd un enfant. Il faut être, comment dire, c'est plus que du courage des fois, c'est, je sais même pas comment dire, c'est, il faut se résoudre en fait que c'est fini et qu'on ne peut pas retourner en arrière, que c'est vraiment terminé. Et je pense que quand on perd un enfant, on met des semaines et des semaines à se rendre compte qu'il ne reviendra pas. Et quand vous avez ce qu'on a eu là ces derniers mois, des confinements, des machins, tout ça, tout ça, c'est un petit peu faussé, en fait. Parce qu'on ne vit pas quelque chose de normal. Donc, en fait, dans votre tête, tout est un petit peu perturbé. Parce vous vous dites, peut-être que tout ce qu'on vit, ce n'est pas réel. Enfin, vous voyez, par moments, je me dis, mais on va peut-être se réveiller un matin et que tout ça, c'est du vent et qu'il est là et que tout se passe bien. Alors que je sais pertinemment que... Voilà, je le sais au fond de moi, mais on essaye de se voiler un petit peu de temps en temps la face pour se dire... on va peut-être le revoir un jour. Après, je suis très, consciente de tout ça et j'essaye d'avancer pour mes autres enfants. Et puis, puis j'essaye aussi de parler avec d'autres parents d'enfants qui ont perdu des enfants. On essaye de soutenir parce qu'il n'y a pas malheureusement que moi qui a perdu des enfants pendant le Covid et qui a perdu un enfant pendant le Covid. Il y en a d'autres parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se battent en dehors de ce virus. Et c'est vrai que et tout le constat qu'on a tous, c'est que le Covid est en train un petit peu de bouffer tout ça. En fait, tous ces petits-enfants-là qui ont le moral dans les chaussettes parce qu'ils ne peuvent pas voir papa et maman parce qu'il y a des restrictions dans les hôpitaux. Donc, c'est compliqué et on les prive un petit peu de beaucoup de choses. Et c'est des enfants qui ont besoin d'avoir le moral pour aller mieux. Et voilà, et on discute beaucoup. On discute aussi, vous savez, du fait que quand on perd un enfant, du jour au lendemain, il est inexistant sur tous vos papiers administratifs. Moi, mon fils n'existe plus. Il n'existe plus que sur mon livret de famille. Il a disparu de tout le reste, en fait, comme s'il n'était jamais né. Donc c'est très frustrant pour des parents quand vous perdez un enfant de vous rendre compte qu'il est en quelques jours effacé de la caisse, de la sécu, de votre mutuelle, de tout. Il n'existe plus. Clairement, du jour au lendemain, vous n'avez eu plus que 4 enfants. Moi j'avais 5 enfants, du jour au lendemain, c'est marqué 4 enfants. Alors que j'ai bien accouché de 5 enfants et j'ai bien 5 enfants, même s'il est parti, j'ai bien 5 enfants. Et malheureusement, ça c'est aussi une double peine, je trouve, quand il faut remplir des papiers et puis cocher, j'ai 4 enfants, mais en fait j'en ai 5, quoi. Donc tout ça, c'est des choses qui sont encore en France très différentes, par exemple de la Belgique, ça se passe pas tout à fait comme ça, mais il y a du progrès à faire aussi sur l'accompagnement des parents, des enfants comme ça. Et voilà, c'est aussi par le biais de la page de mon enfant, des choses que je parle aussi ouvertement et je dis qu'il y a des choses à faire parce qu'on n'est pas accompagné du tout quand on perd un enfant. Et on vous laisse tout seul chez vous. Et puis voilà, moi j'ai encore la chance que les médecins de mon fils prennent de nos nouvelles régulièrement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis on tisse des liens avec les médecins, moi j'ai passé 6 mois non-stop avec ces équipes, donc on tisse des liens et ça fait du bien des fois de les entendre, de dire tiens, on rigole de choses bêtes, tu te rappelles quand on avait fait les crêpes au carnaval avec ton fils, mm-hmm. et c'est des petits souvenirs qui font du bien de temps en temps.
Qui font du bien dans la direction de ce dont vous parlez, c'est qu'il existe. Il était là.
Voilà, il existe. Il était là, même s'il n'est plus là.
Mm-hmm. Il a laissé une trace, une marque.
Oui, après, c'est vrai que j'ai tellement parlé de lui, j'ai tellement fait connaître son combat, en fait, qu'il a laissé une trace, clairement. Parce que les gens qui le suivaient m'écrivent encore, m'envoient des messages, me demandent comment on va. Et il a existé. Et j'ai beaucoup de personnes qui le suivaient, qui me disaient « mais grâce à lui, j'ai appris plein de choses. Grâce à lui, je me bats parce que voilà, j'ai un cancer et je me bats parce que je sais qu'il s'est battu pendant tant d'années. » J'ai des mamans qui me disent « je vois les choses différemment, je profite de mes enfants » parce que voilà, et je trouve que j'ai pu échanger avec beaucoup de personnes et apporter quelque chose à certaines personnes, et je trouve que c'est aussi ce que je voulais en créant cette page-là. J'ai créé cette page-là, il avait 18 mois, je crois, et ça a pris beaucoup d'ampleur un an avant qu'il parte. Et ça m'a permis vraiment de faire découvrir aussi ce que c'était qu'un enfant qui vivait à l'hôpital tout le temps. Et que c'était pas un enfant qui était triste, c'est un enfant qui rigolait tout le temps, qui ne faisait pas malade, qui si jusqu'au dernier moment, on ne voulait pas dire à ses frères qu'il allait partir. Alors que lui était conscient. Hein. Il savait. Parce qu'il savait qu'il rentrait pour s'endormir, comme il dit. Je rentre à la maison pour dormir. Toute la vie. Il le savait. Mais en aucun cas, il voulait que je le dise à ses frères. Et du moins, il ne voulait pas, en fait, qu'on le regarde comme un petit malheureux qui allait partir. Il était très... Il n'aimait pas qu'on le regarde comme un enfant malade, en fait. Il avait toujours envie de rigoler, toujours envie de faire le pitre sur les vidéos qu'on pouvait poster de temps en temps. Il faisait toujours des grimaces, toujours pour qu'on rigole, pour pas qu'on soit triste en le regardant, en fait. Et c'est une image qu'il faut... que je garderai toute ma vie et que beaucoup de gens garderont d'un enfant qui se battait et puis qui s'est battu jusqu'au bout. Jusqu'à la veille qu'il parte, les dernières photos, et c'est un enfant qui rigole. C'était pas un enfant qui était triste. Et c'est important de garder cette image-là. Et puis de relayer quelque chose de positif. Même si il est parti, je veux qu'on garde une image positive de lui, de nous, et du combat qu'il a mené, et pas de se dire « Ah, le pauvre, il est parti ». Je me dis maintenant, après plusieurs mois, ça va faire un an le mois prochain, je me dis que malheureusement, avec tout ce qu'il vivait, il est peut-être mieux où il est parce qu'il souffrait quand même beaucoup et que c'était pas une vie de vivre à l'hôpital comme il vivait. Et que des fois, il faut s'avouer un petit peu vaincu. Et lui, quelques jours avant qu'il parte, pris. Il fallait lâcher prise parce que il n'y avait plus rien à faire. Et à 6 ans, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir réagi comme il a réagi et de se dire c'est bon, moi je suis fatiguée, j'arrête. Je sais que c'est fini. Et il n'avait que 6 ans.
Et il n'avait que 6 ans.
Et il a demandé à partir. Mmh. Et je me dis que c'est une marque de sagesse et voilà que c'est un petit garçon qui m'aura apporté énormément.
Mais vous savez, en règle générale, qu'il ait 12 ans, 6 ans, 1 an, 2 mois, je pense que ces enfants, en passant, laissent une trace indélébile chez les siens. Et cette présence qui a été courte, bien évidemment, éclabousse de vie et de tout un tas de choses, en tout cas amène ceux qui étaient autour de lui, ses frères et sœurs, ses parents, bien évidemment, à penser autrement et à voir la vie tout à fait autrement. Et c'est en ça aussi que cette marque-là, elle est majeure pour ceux qui restent. Elle est quelque part cette trace, cette marque et quelque part une vie, une autre vie pour les parents, les enfants, les frères et sœurs qui restent parce que il y a une influence de ce passage, une influence certaine et je pense souvent que c'est à travers ce qui reste que cet enfant continue d'être là et de vivre, en fait.
Bien sûr, parce qu'ils ont des marques de son caractère, tous.
Oui, et puis au-delà de ça, je pense qu'il y a une réflexion autour
ils
de la vie.
Ils sont différents, c'est des enfants qui réagissent différemment.
Oui, c'est...
qui ne pensent pas pareil.
Et vous aussi, parents, c'est la même chose. Peut-être vous en rendez peut-être moins compte, mais vous vous en rendez plus compte en regardant vos enfants. Mais je suis certain que des amis proches, en tout cas des gens qui vous aiment et qui font attention à vous, voient combien cet enfant, il aura laissé une marque et il vous aura fait évoluer, grandir, en tout cas changer.
Ah mais ça, de toute façon, on est forcément changé. Mm-hmm. Quand on vit quelque chose comme ça ou quand on a accompagné son enfant autant d'années, on est changé par... tout ce qu'on a vu déjà, et on est changé par la grandeur de la force de l'enfant. qu'il était. Et on ne voit pas le monde de la même façon. Depuis qu'il est parti, je ne vois pas les choses de la même façon.
Puis je suppose que vous relativisez beaucoup de choses. Et c'est grâce à lui. Voilà.
Je suis beaucoup moins exigeante envers les autres enfants que je ne pouvais l'être avant. Et puis même par rapport aux autres, je me dis, on n'a qu'une seule vie, en fin de compte. Et tout ce qu'on fait, des fois, on perd du temps dans notre vie.
Oui.
Et je me dis que des fois, il y a des choses qui sont nécessaires de perdre du temps dans une aussi courte vie. Parce que lui, il a peut-être eu une courte vie, mais il l'a vécu à 1000 à l'heure sa vie. On lui a fait faire des choses extraordinaires. Il a pu vivre tout ce qu'il voulait en très peu de temps.
Ben voilà.
Et je me dis, pourquoi nous, on ne fait pas pareil? Parce que, voilà, il faut être... nous, on a eu la chance vraiment d'avoir un enfant comme ça. Et j'ai eu la chance, quelques mois plus tard, même si ça a été difficile, on a eu un petit bébé il n'y a pas très longtemps, qui est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe après le décès de notre enfant. Et j'avais 4 enfants, plus mon petit garçon qui est parti, ça fait 5. Et j'avais 5 petits garçons. Et on a eu une petite fille, un peu avant Noël. Et je me dis, mais c'est un signe, parce qu'on n'avait que des garçons. Et puis là, on a eu une petite fille qui est arrivée alors que ce n'était pas du tout prévu du tout et que je n'étais pas prête à vivre ça. Et puis, c'est un petit cadeau. On dit que c'est notre petit arc-en-ciel, c'est lui qui nous l'a envoyé. Et puis, ça nous a fait penser à autre chose. Elle est là, on voit la vie différemment, on se projette en fait, autrement. On se dit, on va pouvoir, elle ne le connaîtra jamais.
Mais si, elle le connaîtra
à travers nous.
Autrement.
Et je me dis, il nous envoie un magnifique cadeau. Et puis, la vie redémarre.
Exactement. Voilà. Merci mille fois, Aurélia, pour ce...
Mais merci à vous, surtout.
L'histoire de ce petit garçon et de votre famille. Et de tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivrez aussi en résonance avec cet enfant. Je vous souhaite bon vent, ma chère Aurélia.
Merci, très bonne soirée à vous.
Très bonne soirée, au revoir.
Au revoir.